Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de Nu Info. Au menu, un nouveau rapport sur le conflit au Tigré en Éthiopie dénonce des possibles crimes de guerre. Retour sur la COP26 avec les engagements du secteur financier et les revendications des peuples autochtones pour protéger les forêts de la RDC. Depuis un an, massacres, enlèvements, tortures et violences sexuelles sont le quotidien des civils dans la région éthiopienne du Tigré. C'est ce que dénonce l'enquête conjointe de l'ONU et de la Commission éthiopienne des droits de l'homme qui appelle à tenir les auteurs responsables. Le rapport, qui porte de novembre 2020 à juin 2021, relève une brutalité extrême dans le conflit tigréen où de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité auraient été commis par toutes les parties du conflit. Une dynamique qui semble avoir continué depuis juin. Françoise Mienda, chef section de l'Afrique orientale et australe au commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.
Les abus et violations, il y a notamment les massacres, il y a les viols, il y a la torture, il y a les déplacements forcés des populations, et puis il y a la situation des réfugiés également. Donc ça, c'est parmi les cas qui pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Je dirais qu'il y a eu un tournant au début du mois de juillet, après le cessez-le-feu unilatéral déclaré par le gouvernement et la reprise de Mekelle par les forces tigréennes. Mais en ce moment, c'est un peu le retour à l'origine, c'est-à-dire avec vraiment des violations des deux côtés. C'est à la fois le gouvernement et les forces tigréennes qui, voilà, parce que le conflit est actif. Et donc, je ne dirais pas qu'il y ait eu un tournant. Il y a eu juste un tournant en juillet, mais pour l'instant, c'est le début entre deux parties au conflit qui s'affrontent et la population civile qui en pâtit.
Retour sur la lutte contre le changement climatique et la COP26, la conférence des Nations Unies sur le climat, qui se déroule à Glasgow, au Royaume-Uni, et où hier, c'était la journée de la finance. L'occasion pour l'ONU de présenter l'engagement du secteur privé en matière de financement climatique. Jérôme Bernard.
Près de 500 entreprises mondiales de services financiers ont convenu à la COP26 d'aligner 130 000 milliards de dollars avec les objectifs climatiques de l'accord de Paris, notamment la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Cela représente environ 40% des actifs financiers mondiaux. Selon McCarney, l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'action et la finance climatique, le message central est que l'argent est là pour la transition. L'Alliance financière de Glasgow pour le net zéro regroupe des banquiers, des assureurs et des investisseurs qui s'engagent à placer le changement climatique au centre de leur travail. McCarney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, considère cette alliance comme l'infrastructure critique du nouveau système financier. Selon lui, il faut aller là où se trouvent les émissions pour aider à les réduire. Il a prévenu que les entreprises qui ont mis en place des plans pour réduire les émissions trouveront le capital dont elles ont besoin. En revanche, celles qui n'en ont pas mis en place n'en auront pas. La chef d'ONU Climat, Patricia Espinoza, a estimé pour sa part qu'il ne faisait aucun doute qu'il devait y avoir une transformation profonde de l'économie mondiale et que le secteur privé devait en faire partie.
COP26 toujours, plus de 100 dirigeants mondiaux réunis à Glasgow se sont engagés mardi à enrayer la déforestation d'ici 2030. Pour réussir ce défi en République démocratique du Congo, Patrick Saidi, le coordonnateur de la dynamique des peuples autochtones, a plaidé pour la sécurisation juridique des espaces fonciers des peuples autochtones sur l'ensemble du territoire national. D'après lui, ce sont les pygmées qui savent mieux protéger les forêts du bassin du Congo.
Ce que nous demandons, au-delà d'arrêter avec la déforestation, c'est d'abord arriver à sécuriser juridiquement les terres des peuples autochtones, notamment chez nous les peuples autochtones pygmées, parce que ces terres-là se trouvent toujours dans des zones forestières. Et en protégeant ou en sécurisant juridiquement les terres et les forêts des peuples autochtones pygmées, à ce moment-là, nous serons en train de lutter efficacement contre les changements climatiques et la préservation des biodiversités. Et nous pensons que cela est l'unique moyen, effectivement, pour garantir un développement durable. Mais au-delà de ça, comme ce sont les autochtones pygmées qui protègent les forêts grâce à leurs connaissances traditionnelles, grâce à leur système de gouvernance qui a si démontré leur efficacité au maintien des forêts dans leur intégrité, mais aussi à la préservation du couvert forestier, ce que nous demandons d'un côté, c'est de mettre en place de véritables fonds qui vont permettre à ces communautés de continuer à maintenir ce mode de vie qui est aujourd'hui salutaire pour l'environnement, salutaire dans la lutte contre le changement climatique.
Voilà, fin de ce résumé de l'actualité de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.